enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Pour ceux qui ont leur Bible. Et oui, une vie enrichie. Et même ce matin, on termine notre enseignement sur notre série de messages sur une vie enrichie, qui est une partie du sermon sur la montagne enseigné par Jésus. Et on va partager sur l'ennemi subtil de notre foi ce matin, mais avant, on va lire le texte dans Matthieu, le chapitre 7, verset 28. C'était notre texte qu'on lisait à chaque début de sermon. Quand Jésus eut fini de prêcher son sermon sur la montagne, eut fini de parler, les foules étaient profondément impressionnées par son enseignement. En effet, il ne fait pas comme les maîtres de la loi, mais il enseigne avec l'autorité que Dieu lui donne. On va juste prier. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Que Dieu, tu puisses encore une fois mettre des paroles de vie dans ma bouche ce matin, des paroles d'encouragement, des paroles qui vont, Seigneur, donner la vie, communiquer la vie, l'espoir à ceux qui vont l'entendre, Seigneur. Que ça puisse, Seigneur, être une bonne dose de vitamines spirituelles qui vont nous aider à passer la journée, à passer la semaine qui s'en vient, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs alors qu'on ouvre ton Saint-Livre. Au nom de Jésus. Amen. On pourrait penser que l'ennemi subtil de nos âmes, pas de nos âmes, mais de notre foi, pourrait être le doute. Mais combien savent que c'est pas trop subtil hein, comme ennemi? Là, le doute, on le sait, c'est l'ennemi, c'est le contraire de la foi. L'ennemi subtil de nos âmes, je suis tout le temps en train de dire nos âmes, notre foi, mais en tout cas, c'est nos âmes pareil. Je l'ai, ben le Seigneur l'a appelé, puis il y en a peut-être plus qu'un ennemi subtil, mais en tout cas, ça me tente que ce soit lui un matin. L'inquiétude. Il est-tu assez inquiet d'après vous autres, celle-là? C'est des fois, on a de l'air de ça quand on est inquiet aussi. Quand on est angoissé, quand on est stressé. L'inquiétude, personne ne peut la voir. Elle est invisible. Mais elle nous paralyse et elle étouffe notre foi. Une observation a été faite qui mentionne que les gens qui s'inquiètent sont à la base des gens qui sont insatisfaits. Ils sont jamais contents de ce qu'ils ont, pas, je veux dire. Ou ce qu'ils ont, ils sont pas contents de ce qu'ils ont parce qu'ils voudraient avoir d'autres choses. Fait que là, ça fait des gens qui sont pas contents, des gens qui sont angoissés, qui sont inquiets, qui sont stressés parce qu'ils ont quelque chose, mais c'est l'autre chose qu'ils auraient voulu avoir. Fait que c'est mis sur le gros nerf, sur le gros stress parce que là, ils voient l'autre l'avoir, puis eux autres auraient voulu l'avoir. Ça me fait penser à un jeune garçon de 14 ans qui a écrit un poème, puis je vais vous le lire ce matin. Qui explique bien cet état destructeur d'inquiétude, manque de contentement. Là. C'était le printemps, mais c'est l'été que je voulais. Les jours chauds et les jeux extérieurs. C'était l'été, mais c'était l'automne que je voulais. Les couleurs des feuilles et l'air frais et sec. C'était l'automne, mais c'est l'hiver que je voulais. La belle neige et la joie du temps des fêtes. C'était l'hiver, mais c'est le printemps que je voulais, la nature qui revit et les bourgeons des arbres. J'étais un enfant, mais je voulais être un adulte avec la liberté et le respect. J'avais 20 ans, mais je voulais avoir 30 ans et être plus mature. J'avais 40 ans, mais je voulais avoir 20 ans avec la fougue de la jeunesse. Moi, j'arrive à 40 ans, là, puis je suis juste content. La vie commence à 40 ans. Je sais pas, mais je suis rendu à 60, qu'est-ce que je vais dire, mais là, pour l'instant, je suis correct, là. J'ai pas le goût d'avoir 20 ans. Sauf quand je joue au hockey, j'aimerais retrouver mes 20 ans, mais ça, c'est pas grave, ça. J'étais à la retraite, mais je voulais avoir 40 ans, avec la présence d'esprit sans limite. Ma vie s'est terminée, et je n'ai jamais eu ce que je voulais. Moi, j'en ai rajouté juste pour le plaisir, je me suis dit, j'avais pasteur Guy comme pasteur, mais c'était un autre pasteur que je voulais. Puis quand j'ai eu l'autre pasteur qui était plus vieux, qui était plus mature, dans le fond, c'est pasteur Guy que je voulais parce qu'il était plus jeune, il était plus... Non, ça marche pas. Hein? On a de la misère quand on est inquiet et angoissé à bien vivre le moment présent. Jésus a inclus le sujet de l'inquiétude dans son sermon sur la montagne, puis c'est ça qu'on va regarder ce matin. Puis je veux le remercier pour cela, parce que ça va nous aider à traverser puis à vivre notre vie chrétienne. Quand Jésus a dit dans le sermon sur la montagne, puis j'ai pas le verset, mais c'est dans entre Matthieu 5 et Matthieu 7, quand il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Quelqu'un se rappelle sûrement ce passage-là. Il disait en des mots plus simples, « Arrêtez de regarder à l'horizontale, puis commencez à regarder à la verticale. » Trop souvent, quand on s'inquiète, quand on est angoissé, c'est qu'on regarde toujours à l'horizontale les problèmes qui sont là. Mais peut-être que ce matin, on va peut-être commencer à vouloir juste regarder un petit peu plus à la verticale. Oui, on revoit tous les problèmes. C'est pas qu'on est des autruches cachées la tête dans le sable et qu'on voit rien. Oui, on voit les situations à l'horizontale, mais il faut pas rester à l'horizontale. Il faut emmener nos yeux à la verticale. Et c'est là que ça va nous aider à dealer avec l'inquiétude et l'angoisse. Une personne qui est rongée par l'inquiétude, l'angoisse, le stress a une tendance à voir à l'horizontale. Et lisons ensemble le texte dans Matthieu 6, verset 25 et le verset 34 aussi, qui est l'enseignement de Jésus sur l'inquiétude dans son sermon sur la montagne. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson. Quand on parle de boisson, là, c'est du breuvage, là. Ben, juste pour être sûr, là. Dont vous avez besoin pour vivre, au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour être vêtu pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps est plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Si on y va avec l'inquiétude, là, je vais juste vous montrer que j'ai fait un cours de grec dernièrement. Je veux juste m'exciter un peu ce matin. Fait que laissez-moi juste vivre mon moment de joie ce matin. Le mot inquiétude en grec vient du mot merim nao. C'est le fun parce qu'à ce temps, vu que j'ai fait un cours de grec, quand je lis des livres et qu'ils me disent le grec, je peux aller voir mon dictionnaire de grec. Puis là, je suis capable de lire en grec. C'est juste ça qui est excitant. À part de ça, il n'y a rien d'autre d'excitant dans le grec. Mais merim nao vient de deux mots. C'est une composition de deux mots. Le premier mot, c'est mériso, qui veut dire diviser. Et deuxième, c'est pas nous, mais en grec, c'est nous, qui veut dire penser. Donc, une personne qui souffre d'inquiétude, c'est quelqu'un qui a la pensée divisée. Tu n'as pas une pensée unique, tu as une pensée qui est divisée. Il y a une bataille à l'intérieur de tes pensées. Ce qui perturbe la personne réellement et l'étouffe. Si on pense à l'enseignement de Jésus dans Marc 4, versets 18 et 19, où ce que Jésus parle de la parabole du semeur, d'autres graines sont tombées au milieu des plantes épineuses. Ce sont les gens qui entendent la parole de Dieu, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses et ils ont beaucoup d'autres désirs. À cause de cela, à cause de cette inquiétude-là pour les choses de ce monde, la parole de Dieu est étouffée, elle ne produit rien. Quelqu'un qui s'inquiète, est étouffé, paralysé, ne peut pas grandir et porter du fruit dans sa foi, dans sa vie chrétienne. L'inquiétude prend place quand on pense que quelque chose pourrait arriver. N'est-ce pas, hein? J'ai peur qu'il arrive quelque chose de mal. Puis là, on se stresse. Puis là, on dort mal. On s'inquiète. On a un gros examen à l'école demain, on a peur de le pocher. Puis là, on s'inquiète de la misère à dormir. Nos enfants, quand ils vieillissent, ben là, ils rentrent tard le soir, puis ça amène d'autres choses. Ils vont-tu rentrer ou ils rentreront-tu pas? Là, on se stresse, on dort pas, puis finalement, ils rentrent. On s'est stressé pour rien. Parce qu'ils sont rentrés. On comprend l'inquiétude, là, mais l'inquiétude, c'est, on pense que quelque chose pourrait arriver, ou on pense que, ou ça peut être quelque chose qui est déjà arrivé, mais que ce soit un ou que ce soit l'autre, on n'a pas le contrôle et on ne peut pas changer grand-chose. On devient inquiet, on devient insécure et toutes les maladies qui nous suivent. Avons-nous remarqué que la plupart de nos inquiétudes n'arrivent jamais ou n'arriveront probablement jamais? Si on gardait un inventaire de nos inquiétudes pendant 30 ans, les chances sont bonnes que peut-être 80 à 90% de nos inquiétudes ne se soit jamais accompli, ne soit jamais arrivé. Bon, on va s'en avoir stressé pour un bout, par exemple. Hey, on va en avoir stressé d'autres aussi, hein. On est inquiet, on inquiète les autres. Parce que pour des choses qui n'arriveront peut-être jamais. C'est vrai, ça, ou c'est pas vrai? Ne soyons pas inquiets pour trois domaines. Premier domaine. Ne soyons pas inquiets pour notre vie. Mais non, on s'inquiète pas pour ça, nous autres pasteurs. Mais non, t'inquiètes pourquoi? Ben, je vais-tu vivre demain, là, tu sais? Je vais-tu mourir, là, tu sais? Quand tu penses aux gens qui sont rendus à 60 ans, je suis pas rendu là, mais j'imagine quel feeling doit être là. Il y a une fois où ce que vraiment j'ai dû dealer, j'étais inquiète. Vraiment inquiète par rapport à la mort. Parce que je suis jeune, puis moi, je pense pas à mourir tout de suite. Fait que, c'est quand je suis allé en Colombie-Britannique, puis c'était pas pour les ours, c'était pour d'autres choses. C'était la fameuse avion. Pour la première fois de ma vie, c'était la deuxième fois que je prenais l'avion, j'avais peur qu'elle crache. Tu sais, puis là, tu dors mal. Puis là, ça a juste tombé que une semaine avant que je prenne l'avion, ou quelques jours avant que je prenne l'avion, il y a un avion qui a crashé, puis un joueur de baseball des Yankees de New York qui est décédé. Puis là, j'ai dit, ouais, c'est ça. Who's next? C'est qui le prochain? J'ai été comme inquiet, j'ai dû combattre avec la peur que l'avion crache pendant quelques jours. Puis même quand j'étais dans l'avion, tu sais, c'était pas facile. J'étais pas confortable. Puis là, je regardais les hôtesses de l'air quand ça brassait un peu dans l'avion. Puis eux autres, ils continuaient leur affaire. J'ai dit, bon, on est correct. Tant qu'eux autres, ils sont pas stressés, je me stresserai pas. Il y a des signes, il y a des choses qui t'aident. Il y a des inputs, ou je sais pas trop quoi, les mots, là, qui vont t'aider, là. À combattre l'inquiétude que tu peux vivre. Quand tu vois d'autres personnes qui sont pas inquiets, pourquoi toi tu t'inquiéterais? Regarde, les autres vivent la même chose que toi, ils sont dans le même avion que toi, puis ils s'énervent pas. Fait, pourquoi moi je m'énerverais? Parce que c'est de même que j'ai combattu mon inquiétude, j'ai regardé les autres autour, personne ne s'énervait. Surtout les hôtesses de l'air qui sont habituées là-dedans, j'ai dit, regarde, si les autres m'engagent. Si les autres s'inquiètent, ben là, je vais avoir raison de m'inquiéter. Mais tant qu'ils s'inquiètent pas, je m'inquiète pas. On s'encourage. Ne soyons pas inquiets pour notre vie. La Bible dit dans Matthieu 6, 27, ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Qui peut ajouter un seul jour à sa vie? Personne. Puis encore moins quand tu t'inquiètes. Peut-être que même quand tu t'inquiètes, tu le raccourcis. Ne soyons pas inquiets pour nos besoins. La Bible dit dans Matthieu 6, 31, l'enseignement de Jésus encore, Ne vous soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, avec quoi serons-nous habillés. Nous avons ici la trinité de nos besoins essentiels, le manger, le boire et le vêtement. Malgré le fait que ce sont des besoins importants, des besoins essentiels pour nous, Jésus nous encourage ce matin à ne pas nous en inquiéter de ce qu'on va manger, de ce qu'on va boire, de comment est-ce qu'on va être vêtu. « Ouais, mais tu connais pas ma situation, tu connais pas mes finances, pasteur. Écoute, moi, là, ma femme là, a été pendant 10-12 ans à pas travailler. On a fait un choix comme ça de rester à la maison, pas travailler. Puis même l'Église nous poussait des fois aussi dans ce temps-là. Là, les femmes au travail, c'était moins pas très bien vu non plus dans ce temps-là. On recule 20 ans passés. Là. Puis moi, je gagnais des petits salaires de crève-faim au métro. Je vous dirais pas mon salaire, c'est peut-être plus bas que le salaire minimum aujourd'hui. Puis il faut laver, on avait des enfants là-dedans, jeune famille. Hey, regarde ce qu'on est rendu. Tout est correct. J'ai jamais rien manqué de rien. J'ai pas manqué de nourriture. J'ai du linge. On n'allait pas à l'équipeur, puis à tout, je sais même pas c'est quoi les gros classiques, là. C'est quoi le Tommy Hilfiger, là. On n'allait pas là-dedans, là. C'est sûr qu'on allait à Croix-Rouge, nous autres. Mais on n'avait pas les moyens d'aller dans des grosses boutiques, mais Dieu pourvoyait pareil. Il y a quelqu'un qui prenait son linge, qui voulait plus, qui l'amenait à la Croix-Rouge pour que ceux qui étaient moins nantis financièrement pouvaient s'en acheter à petit prix, puis avoir du beau linge quand même. Pendant des années. Puis je me demande même si j'ai pas encore du linge, que je porte encore de la Croix-Rouge, de la maison de l'entraide. Ça me dérange pas, ça. Quand que t'as pas l'argent, il faut, Dieu pourvoit tout le temps. Quand que on manquait, on avait moins pour la nourriture. C'est des banques de nourriture dans les villes pour aider les gens qui ont de la misère financièrement. Oui, je sais qu'il y en a qui en abusent, mais quand tu en as vraiment besoin, c'est le fun de les avoir, ces organismes-là qui aident les gens. C'est plate qu'il y ait des gens qui abusent de ça, mais quand tu en as vraiment besoin, tu es content qu'elle est là, la maison de l'entraide. Ne soyons pas inquiets pour nos besoins essentiels. Dieu le sait qu'on a besoin de ça, puis il va toujours pourvoir, on ne manquera jamais de rien, peuple de Dieu. Ne soyons pas inquiets, troisièmement. Un, pour notre vie. Deux, pour nos besoins. Trois, c'est la meilleure, celle que j'aime le plus. Êtes-vous stressé? Êtes-vous inquiet? Ne soyez pas inquiets pour demain. Puis là, vous faites comme Joël le dit. Ah! Non, pas demain. Qui n'a aucun stress pour demain? Aucun stress pour demain. Ouais, Jésus nous dit, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain, ça se stressera lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Moi, j'aime cette version-là. Stressons-nous pas pour demain. On ne sait pas ce que demain va réserver. Il y a une récession qui s'en vient, ça va être laid. Ben oui, elle s'en vient. On n'a pas nié une en 82, une récession. Les taux d'intérêt ont monté. Ça l'a pas. Il y a des églises, je me souviens d'une église qui ont pogné des gros intérêts, puis je pense qu'ils payent encore aujourd'hui pour ça. Ça fait 20 ans de ça. Mes parents, j'étais petit dans ce temps-là, puis mes parents, ils ont pogné la flambée des taux d'intérêt, puis ils commencent juste à s'en sortir 20 ans plus tard. Oui, ça n'a pas été facile, mais on est encore là. On a passé au travers. Tu comprends-tu? Montréal va être inondé dans 30 ans. C'est ça qu'ils ont dit. Ils ont fait un reportage dans le journal de Montréal. Tout ce qui restait, c'était le mât du stade, sa photo. Puis il y avait une plage. Où ce qu'on est là-dedans, nous autres? On est au ciel avec le Seigneur. Amen. Ça, c'est plus positif. C'est la seule façon pour... Mais, regarde! Si on se stresse tout de suite, là, mais là, on va être inondé. Mais oui, mais attends que ça arrive. Avant d'être stressé. Tu sais même pas si ça va arriver. On s'en va. J'ai rencontré quelqu'un cette semaine. Un des vendeurs avec lesquels je faisais affaire quand j'étais gérant d'épicerie. Puis ça faisait 9 ans que je l'avais pas vu. Puis c'est un que j'avais aimé beaucoup quand j'étais gérant d'épicerie. On avait bien du fun ensemble. Je l'ai loué du sport au métro cette semaine. Hey, ça va bien. Puis on dirait qu'il n'a pas changé 9 ans plus tard. À part ses cheveux qui sont rendus blancs. Il m'a dit le même langage qu'il répétait, la même inquiétude qu'il ronge depuis des années. Il dit, tu savais-tu ça, Guy? Il dit, de plus en plus, là, on s'en va vers une société, les riches vont s'enrichir, puis les pauvres vont s'appauvrir, puis les gens de la classe moyenne, comme toi puis moi, ils seront plus là. Hey, j'ai dit, t'es excitant, toi, un matin, ça n'en avait qu'on ne s'est pas vu, là. J'ai dit, t'es encourageant. Hein? C'est un méchant sermon, celui-là. Là. Tu comprends-tu? Mais ça, il a toujours parlé de même. Puis tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu veux faire, c'est vrai que les pauvres s'appauvrissent, puis les riches s'enrichissent. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis les moyens, ils moyennisent, je sais pas. On se stresse pour rien. Le prix des maisons va continuer de grimper. Nos jeunes pourront plus s'acheter une maison. Pauvre. Je regarde mon gars, là, tu sais. Il pourra pas s'acheter une maison, pauvre petit gars. On se stresse pour rien. On se stresse. Qu'est-ce que tu dis? Il va rester chez son père. Ah, ça va coûter cher. C'est moins qu'un repli. On va continuer à manger du beurre de pinard devant. C'est vrai. Le prix des maisons va augmenter. La première maison que j'ai payée, je l'ai payée 18 000. Puis là, on recule juste là 20 ans. Là. Puis à un moment donné, on a acheté une maison 80 000. Parce qu'on en a acheté plusieurs, malheureusement. Puis on s'est dit, jamais dans notre vie, on va être capable de se payer une maison de 100 000. On voyait des maisons à 100 000 qu'on aurait tellement voulu. 100 000, c'était incroyable. C'était au-delà. C'était impossible qu'on achète une maison comme ça. Impossible! On s'en va au Nouveau-Brunswick, on s'est dit, ça y est, jackpot là-bas, les maisons, ils les donnent, là, tu sais. Non, ils ne les donnent pas nulle part, les maisons. Là. Faut que tu les agères, les maisons. Puis là, le Seigneur, il nous il permet qu'on vienne à Sainte-Julie. Puis on s'est dit, bon, c'est pas payé, on va se poigner une. On savait que le prix des maisons avait augmenté, mais on s'est dit 100 000, gros top, là, tu sais, pas plus que ça. On arrive ici, 150 000, t'as rien. 100 000, là, c'est cabane à chien, puis c'est à peu près tout. Hey, je capotais, j'ai dit, ça n'a même pas d'allure. 150 000 qu'on a payé notre petit bungalow de rien du tout, pantoute. 25, 40, 24, 40, 25, le carré de maison. 150 000, là, 2 ans. Hey! Là, toi, tu sais, avant ça, 150 000, ça a arrêté le château des châteaux. On n'a pas, on pourra jamais payer. On était capable de se payer 150 000. On mange encore du beurre de pinot, on va à quoi rouge, mais ça, c'est pas grave, ça. On manque de rien. On a un toit, on a du linge, puis on a du manger en masse. Dieu pourvoit, on manque de rien. Puis dans toutes ces années-là, on a toujours été fidèles au Seigneur, on a toujours apporté à la maison de Dieu nos dîmes et nos offrandes, on n'a jamais, jamais manqué de rien. Puis il y a des fois qu'il y avait de quoi être stressé, mais on a dit, Seigneur, on va mettre les choses, les premières choses en premier, puis on n'a jamais rien manqué, frères et sœurs, de rien. On n'a jamais sauté un seul paiement de rien, de rien. Dieu a pourvu, il nous a bénis, on a eu de l'aide, on n'a rien manqué. Mais on se stresse pour rien. Nos enfants, ils vont s'en acheter des maisons. Ils vont s'en acheter des maisons. Dieu va pourvoir pour eux autres. C'est notre saison, c'est notre époque, c'est notre temps. On s'inquiète des fois pour rien. On se fait du stress, puis ça nous mange, ça nous gruge en dedans. Ça étouffe notre vie spirituelle, ça étouffe notre foi. Une vie enrichie est une vie qui est consciente des besoins de la vie. C'est pas qu'on n'est pas conscient, on le sait, c'est la réalité. C'est sûr que ça sera pas facile pour eux autres. Maison de 200 000, quand tu commences, c'est pas évident. Mais les banques, ils savent, fait qu'ils rallongent les paiements. Au lieu de 25, ils sont rendus à 30 ans, puis là, il y a des prêts, c'est rendu 40 ans. Fait que tu pars à 20 ans, puis tu sais qu'à 60 ans, ta maison va être payée. Ben, c'est comme ça. Puis si Dieu pourvoit, puis Dieu bénit, puis tu as une bonne job, ben, tu payes aux 2 semaines, tu viens te sauver 5, 6, 7 ans. Mais on se stresse des fois, puis on s'inquiète pour beaucoup de choses. Puis on est vrai, là, ce que je dis, là, tout le monde, à peu près, le vivre ou vont le vivre. C'est une réalité. Une vie enrichie est une vie qui est consciente des besoins essentiels de la vie, mais qui refuse de se laisser diviser dans ses pensées par l'inquiétude, qui refuse de se laisser dominer par l'inquiétude, comme le font ceux qui n'ont pas de Seigneur dans leur vie. Il faut qu'il y ait une différence à quelque part aussi. Oui, on est conscient que c'est pas facile. Oui, on sait qu'on va être inondé un de ces jours probablement. Ça se peut que ça va arriver, que ça arrivera, mais que ça arrive. Mais là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut mieux vivre notre aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, je veux jouir de la vie aujourd'hui. Mais si je me stresse toujours pour demain, je serai pas bien aujourd'hui. Puis je vais faire comme le jeune homme qui a écrit dans son poème. Tu comprends-tu? Si on est le printemps, mais c'est l'été, je veux être. Écœuré de la pluie. Là. Moi, je veux que ça soleil. Je vais me baigner dans ma piscine. Deux images pour bien comprendre encore l'inquiétude. Ça se comprend-tu, ça? La nourriture et les oiseaux. C'est Jésus qui fait la belle image aussi. Matthieu 6, 26. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, puis ils ne moissonnent pas. Ils sont censés, ils ne travaillent même pas, eux autres. Ils ne mettent pas de récolte dans des greniers. Pas trop forcément être un oiseau. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez beaucoup plus que des petits pit, 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 pit. Je mets de l'humour un peu, là, mais on vaut pas mal plus que des oiseaux. Puis les oiseaux, ils font rien de rien à part voler. Puis Dieu les nourrit pareil. Il les nourrit de différentes façons. Quand on fait des pique-niques dehors et qu'on leur pitche du pain, aux autres, Dieu les nourrit de toutes les manières inimaginables. Mais Dieu les nourrit. Puis nous, on vaut plus. Jésus dit, vous valez plus que les oiseaux. C'est pas moi qui dis ça, c'est Jésus qui dit ça. C'est beau, hein? On vaut plus que ça. C'est vrai qu'on vaut plus que ça. n'y a pas de scores pour les oiseaux, là. Il n'y a pas de lobla et de provigo pour les oiseaux. Mais il n'y a aucun oiseau qui manque de nourriture. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. On continue. Deuxième image. Le vêtement par rapport aux fleurs des champs, aux lys des champs. La version que j'ai prise appelle ça les fleurs des champs, puis j'aime les fleurs des champs. Matthieu 6, 28 nous dit, on a le texte à l'écran, « Observez les fleurs des champs. Regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas, elles ne tissent pas. Eux autres non plus ne travaillent pas fort. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. » Moi, je regarde ce que j'ai aujourd'hui. J'ai la misère à comprendre ça. J'ai la misère que Jésus dise que même Salomon, qui était le plus riche des riches à l'époque, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs-là. L'herbe est aujourd'hui dans les champs et demain on la jettera au feu. Et pourtant Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu en fera au moins autant pour vous. Wow! C'est beau le tapis, hein? Ça, c'est toutes des fleurs. Toutes des fleurs, toutes sortes de couleurs. Puis Dieu dit que même Salomon, dans toute sa richesse, il n'a pas été aussi bien vêtu que ça. Puis Jésus, le Seigneur, il nous dit à vous qui vous inquiétez, qui manquez trop souvent de foi, Dieu va en faire autant qu'il en fait pour ces fleurs-là. Wow! Les fleurs des champs poussent et fleurissent. Les fleurs des champs, là, ils ne se comparent pas. Ah, lui est rouge, moi je suis jaune, moi elle voulait être bleue. Ils ne se plaignent pas. Là où ils sont plantés, ils poussent et fleurissent, peu importe s'ils sont appréciés ou pas. Moi, le pasteur, il ne vient même pas. Non, non, moi je ne grandis plus. Le pasteur, il a oublié de me donner la main l'autre fois. Non, non, c'est fini. Oh, lui, Dieu le bénit plus que moi, là, c'est normal. Là. Lui, là, il est. Ouais, c'est ça. Non, c'est fini. Non, mais écoute, regarde les fleurs. Apprenons des leçons de vie, de la nature, de la création de Dieu. C'est vrai, là où ils sont plantés, ils poussent puis ils fleurissent. Jésus ose même dire que Salomon n'a pas été aussi bien vêtu que les fleurs des champs qui entouraient sa maison royale. À l'intérieur de sa maison royale régnait beaucoup plus d'inquiétude et d'angoisse qu'on peut l'imaginer. Mais les fleurs des champs à l'extérieur poussaient, grandissaient, fleurissaient sans inquiétude ni angoisse. La leçon pour une vie enrichie. Dieu prend soin de ce qui lui appartient. Est-ce que tu appartiens à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux dire « Je suis un fils » une fille de Dieu. Si tu es capable de dire ça, oui, je suis une fils ou un fille. Un fils ou une fille. Oh, yes. Si tu es capable de dire, je suis un enfant de Dieu ce matin. Puis que tu es capable de dire, Dieu est mon Père. Il y a une leçon de vie pour une vie enrichie ce matin, c'est Dieu va prendre soin de toi. Inquiète-toi pas. Il connaît nos besoins, il anticipe nos crises, il est conscient de nos faiblesses, il est toujours prêt à nous secourir, il fait toutes choses bonnes au bon moment. Alors, quoi faire? Il y a un soulagement à l'inquiétude que Jésus nous donne dans son enseignement. Puis c'est dans Matthieu 6, verset 33, puis ça dit, « Cherchez en dernier le royaume de Dieu. » C'est ça que ça dit? C'est chercher en premier, chercher d'abord, chercher premièrement le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Et il vous donnera tout le reste en plus. Et quand ça parle de tout le reste en plus, il faut faire attention, là, parce que je pense pas que ça dit tout le reste. Là. Si on le prend dans le contexte dans lequel c'est écrit, le Seigneur, il parle de s'inquiéter au sujet du manger, du boire puis du vêtement. Stressez-vous pas avec ça comme ceux qui connaissent pas le Seigneur s'inquiètent avec ça. Cherche d'abord le royaume de Dieu, puis tout le reste, manger, boire, vêtements vont suivre. Moi, c'est de même que je comprends ce texte-là. Je suis pas prêt à dire que c'est tout le reste. À la lumière du contexte dans lequel c'est écrit. Mais les besoins essentiels de la vie, Si je cherche d'abord le royaume de Dieu, Dieu va pourvoir pour mes besoins essentiels. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Et là, ça continue, ne vous faites pas du souci pour demain. Je l'ai tellement aimé, ce verset-là, je le mets partout. Ne fais pas du souci pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Puis combien peuvent croire qu'on a assez d'aujourd'hui? Demain, regarde, mais que ça arrive, on dealera avec. Voulons-nous vivre une vie libre de toute inquiétude ce matin? Plutôt, sommes-nous sérieux de vouloir se débarrasser de l'inquiétude qui nous paralyse trop souvent? Le dernier verset que je viens de lire, les deux derniers versets que je viens de vous lire, dans Matthieu 6, 33 et 34, nous révèlent deux mots de passe pour y parvenir. C'est pareil quand tu es sur l'Internet là, ou l'ordinateur, tu as toujours des boyennes de mots de passe que tu te rappelles jamais non plus. Là. Tu sais, tu l'écris ton mot de passe, puis là, tu t'en rappelles plus. Ton mot de passe de ton guichet automatique aussi, tu as de l'air fou quand tu t'en rappelles plus de ton mot de passe. Tu sais, ton code de 4 chiffres ou 5 chiffres. Mais on a deux mots de passe ici pour nous aider à se débarrasser de l'inquiétude quand elle arrive. Premièrement, priorité. C'est mettre les premières choses en premier. Chercher premièrement, d'abord, le royaume de Dieu. Priorité. Mets les premières choses en premier. Dès le matin, avant même de te lever, donne ta journée. Donnons notre journée au Seigneur. Je vais m'inclure dedans. Disons-lui que nous voulons l'honorer par notre conduite aujourd'hui. Peu importe ce qui va arriver aujourd'hui, aide-nous, Seigneur, à penser à toi. Que ta volonté s'accomplisse pour nous aujourd'hui. Aide-nous à faire le bien et non le mal. Des petites phrases simples. Ça prend pas une heure, ça, faire ça. Mais tu te lèves, puis en te levant, tu donnes ta journée au Seigneur. Aide-moi aujourd'hui, Seigneur, avec mes enfants, avec mon épouse. Aide-moi aujourd'hui au travail. Aide-moi aujourd'hui à l'école pour les jeunes. Donne ta journée au Seigneur. S'il arrive de quoi, demande au Seigneur. Aide-moi de penser à toi pour mieux réagir devant une situation X. Si on peut s'intéresser aux choses d'en haut, en premier, si on peut commencer à regarder un petit peu plus à la verticale, nous avons une promesse que les besoins essentiels de nos vies, de tous les jours, seront comblés et rencontrés. Alléluia. Mais les premières choses en premier. Trop souvent, on est complètement distrait par les choses de la vie, que notre vie spirituelle en est contaminée par le stress, l'inquiétude et l'angoisse. Pouvons-nous arrêter ce matin et prendre un nouveau départ et commencer à mettre plus des choses de Dieu dans nos vies en premier et à lui confier nos journées en premier aussi? Quelqu'un dit amen. Priorité, mettre les premières choses en premier. Cherche premièrement les choses de Dieu. Le reste, les besoins essentiels, ils vont être rencontrés. Tu manqueras de rien. Tu n'auras peut-être pas du Tommy Hilfiger, mais tu vas avoir du linge sur le dos pareil. Tu n'auras peut-être pas la marque Kraft, tu auras la marque No Name, mais tu vas manger pareil. Tu n'auras peut-être pas du vrai Pepsi, ça va peut-être être du President's Choice, mais tu vas boire pareil. Simplicité, deuxième mot de passe. Vive une journée à la fois. C'est cute, hein? Ça a l'air compliqué, par exemple. Vivons une journée à la fois. Ne contaminons pas aujourd'hui avec les troubles de demain. Refusons de laisser les soucis de demain vider notre source de vie et d'énergie d'aujourd'hui. Aujourd'hui est suffisant comme ça. Gardons notre vie le plus simple possible. Fais ce que tu as à faire aujourd'hui sans te troubler pour demain. Ça ne donne rien de faire ce que j'ai à faire aujourd'hui. Demain, anyway, là, tu sais, fais aller pareil. On fait pas aujourd'hui parce que là, on pense que demain, il va arriver toutes sortes d'affaires. Ça donne rien d'aller à l'étude. Vous êtes les jeunes, pas les enfants, là, mes ados. Je peux pas appeler les ados des enfants, me faire lapider. Les jeunes. Alors, ça donne rien d'aller à l'université. On va flotter dans 30 ans, là. Alors, ça donne rien. Ben non, ça donne rien d'aller à l'université. Mais non, pourquoi? Mais, tu sais, il va rien que rester le mode du stade dans 30 ans. On va être parti. Vous riez, là. Mais ça peut être un combat quand t'entends ça dans les médias, quand t'entends ça dans les journaux, pour nos jeunes. C'est-à-dire, ça donne quoi d'aller à l'université, m'endetter, parce que anyway, dans 15, 20 ans, 17, c'est fini. C'est vrai ça, là. Ce que je dis là, on rit, mais c'est un combat pour nos jeunes. C'est un vrai combat. Pareil comme le Bayern de Bâle de l'an 2000, où ce qu'on a arrêté de vivre en 1999 pendant plusieurs mois, parce que c'était supposé d'être un crash épouvantable, le bug de l'an 2000. Hey, écoutez, les preachers, là, les prédicateurs, là, ça nous disait, emmagasinez-vous des épiceries dans vos sous-sols. Du canard, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais moi j'en ai entendu des sermons de main. Puis il y a des gens qui l'ont fait. Puis il y en a encore des soupes Elmer dans leur camp. Ah, excusez de ça. Ça a sorti tout seul. On s'est énervé. Ils nous ont stressés. Ils nous ont mis sur le gros nerf. Je le sais, on était sur le gros nerf. On avait toute hâte à l'an 2000, mais écoute, le 1er janvier, là, il arrive pas pile pour tout le monde. Tu sais, c'est qui est en avant de nous autres? C'est la Chine, le Japon, là, tu sais, qui ont eu le 1er janvier avant nous autres. Tu sais, eux autres, ils ont pas bogué, eux autres. Hein. C'est sûr, nous autres, 6 heures plus tard, on boguera pas non plus, là. Tu sais, c'est... Vivons une journée à la fois. On se stresse trop pour demain qu'on oublie de vivre aujourd'hui puis planifier notre vie d'aujourd'hui. Puis ça nous prise de grandes bénédictions, frères et sœurs. Tu sais, on rit, on a mis un peu d'humour, là. Mais à quelque part, ça me donne le goût de pleurer, là. Moi, les jeunes, je vous le dis, si vous avez le goût d'aller à l'université, allez-y à l'université. Barde-toi pas, concentre-toi pas qu'est-ce qui va arriver dans 10, 15 ans. Vis ta vie aujourd'hui. Fais les choses que tu as le goût de faire, que tu penses que Dieu veut que tu fasses aujourd'hui. Puis fonce à plein régime dedans. Puis mec, demain, si on flotte, on flottera, on vivra avec quand ça arrivera. Personne ne s'est stressé pour la crise du verglas quand il y a eu la crise du verglas. Personne l'a annoncé. Elle est venue, elle est arrivée. Ça nous a toutes mis sur la grosse, sur le gros nerf quand on l'a vécu. Mais on a tout traversé, on a tout passé au travers, frères et sœurs. Quand c'est arrivé, oui, il y avait un peu de stress, on s'est confié dans le Seigneur, il nous a aidés, oui, il y avait de l'énervement, mais on a tout passé au travail quand même. Puis c'est arrivé, bang, de même. Quand les choses arrivent, les tragédies arrivent, comme le jeune homme au tournoi de hockey la semaine passée, c'est des choses, tu peux pas vivre toujours dans la peur que ça va arriver. Quand ça arrive, Dieu te donne la force, te donne tout ce que tu as besoin pour traverser ces moments-là, puis ça, je le crois pour l'avoir vécu personnellement. Si on peut apprendre à vivre en refusant chaque jour, une journée à la fois, en refusant de se laisser miner et dominer par l'inquiétude et l'angoisse, nous ferons un pas de géant pour vaincre l'ennemi subtil de notre foi, qui est l'inquiétude. Je posais la question à ma femme cette semaine, j'ai dit, toi chérie, c'est quoi l'ennemi subtil de la foi? J'ai trop aimé sa réponse que ma prêche était déjà finie, fait que je voulais pas recommencer ma prêche, mais j'ai dit, je vais en dire un bout. Elle a dit, dis-moi là, chérie, là. Elle dit, c'est la fatigue. Oh. Intéressant. Moi, j'ai dit, c'est l'inquiétude. Là, elle m'a dit, mais si t'es trop fatigué, tu vas t'inquiéter plus que si t'es pas fatigué. J'ai dit, ouais. J'ai dit, fait qu'il y a deux ennemis subtils à notre foi. La fatigue et l'inquiétude. Jésus, il n'a même pas pensé lui-même. Je vais juste vous lancer ça, la fatigue. Si on est trop fatigué, on est plus vulnérable à l'inquiétude puis à l'angoisse. Si on est en forme, on a un petit peu plus d'énergie pour traverser des fois les mauvaises nouvelles. Puis ça, c'est vrai, ça. T'apprends une chose, quelqu'un fait quoi? T'es fatigué, on dirait tes dents plus vite, ça t'affecte plus vite, ça t'affecte plus facilement. Fait peut-être qu'on pourrait prendre ça en considération. C'est pas écrit dans mon sermon, j'avais fait mon sermon, c'était fini. Elle me dit ça, j'ai dit oui, c'est vrai. La fatigue. Si on est trop fatigué, on se couche trop tard, puis on se lève trop de bonheur. Une fois ça va, deux fois ça va, mais si on fait ça trop souvent, ça pourrait nous nuire à la longue. Dernier verset. Philippiens 15, versets 6 et 7. Ne soyez inquiets de rien. Intéressant. Qu'est-ce que tu fais quand tu t'inquiètes? Demande toujours à Dieu ce qu'il te faut. Quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Puis tu vas découvrir que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, va garder ton cœur et tes pensées unis au Christ Jésus. Tantôt, j'ai dit que l'inquiétude venait de deux mots grecs qui signifiaient « pensée divisée ». Quand une inquiétude vient pour diviser ta pensée, donne-la au Seigneur Jésus-Christ. Donne à Dieu tes inquiétudes quand tu les vis. Verticale. À l'horizontale, tu as plein de choses pour t'inquiéter, mais quand il y en a une qui vient te chercher, une inquiétude qui te ronge, verticale, partage-la à Dieu. Donne-la au Seigneur. Fais connaître ton besoin à Dieu. Fais connaître ton inquiétude à Dieu. Et la paix de Dieu va garder ton cœur et tes pensées unis au Seigneur Jésus-Christ. Pas divisés, unis, qui est le contraire de l'inquiétude. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'inquiétude, mais quand on les a, qu'est-ce qu'il faut faire? Vertical. Pensez à ça. Horizontal, vertical, c'est la croix. À l'horizontale sont les problèmes. À la croix, on règle les problèmes. À la verticale. La paix de Dieu va venir t'aider à traverser ce que tu vas traverser en gardant tes pensées unies au Seigneur. Un petit défi pour vous cette semaine. Déterminons de refuser de se laisser dominer par l'inquiétude et l'angoisse. Peut-être que c'est ta situation ce matin. Trop souvent, tu t'es laissé dominer par l'inquiétude et l'angoisse pour 90% des choses qui sont jamais arrivées encore. Détermine ce matin dans ton cœur, je veux refuser de me laisser dominer par l'inquiétude et l'angoisse. Je veux plutôt déterminer de remettre à Dieu nos inquiétudes, mes inquiétudes. Déterminons de croire que Dieu va prendre soin de nous. Est-ce qu'on est capable de croire ça, qu'on manquera de rien? Mais mets les choses, les premières choses en premier, par exemple. Une promesse, non? Tu manqueras de rien, mais cherche d'abord le royaume de Dieu. Mets les premières choses en premier. Tu vas voir, tu manqueras de rien. Et dernièrement, déterminons de vivre un jour à la fois. Puis ça, là, si on est vrai, si on se regarde dans le blanc des yeux, c'est tough. C'est tough de vivre un jour à la fois. Parce qu'on y pense à demain. Même si on ne veut pas y penser, on y pense pareil. Tu comprends-tu? C'est normal. Mais quand le stress vient, qu'est-ce qu'on fait? On le donne à Dieu. Quand on s'inquiète pour quelque chose, s'il y a une pensée qui vient qui t'inquiète, qu'est-ce qui va arriver avec mes enfants? Seigneur, j'ai peur qu'ils manquent. J'ai peur qu'ils doublent cette année. J'ai peur qu'ils, je sais pas quoi, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Je te le donne. Je te donne mon inquiétude au Seigneur. On prie. J'invite les musiciens, on va chanter un dernier chant. Amen, Seigneur. Mais ce qu'on chante, à quel point tu m'aimes, on a chanté ça. Je veux te dire merci pour ton amour. Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci pour ton amour ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour ton enseignement sur l'inquiétude. Seigneur, je vaux vraiment plus et nous valons plus que des oiseaux, Seigneur. Puis pourtant, Seigneur Dieu, tu prends soin d'eux, c'est incroyable. Seigneur, des fois, le plus grand défi, c'est de mettre les premières choses en premier. J'y pense pas tout le temps de toujours chercher d'abord le royaume de Dieu. C'est pas facile tout le temps, Seigneur, parce que les choses de la vie sont tellement présentes autour de moi que des fois, ça me distrait et ça m'étouffe. Je te demande pardon, Seigneur. Et des fois, Seigneur, que je m'inquiète, puis j'en ai même de la misère à dormir, alors que, Seigneur, tu es là à côté de moi, Dieu, puis tu peux mettre ta paix dans mon cœur, puis je pense même pas à tes dires tout le temps. Pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à mettre les premières choses en premier, puis à vivre un jour à la fois, Seigneur. Mes enfants vieillissent, Seigneur, puis des fois, il y a toutes sortes d'inquiétudes qui nous passent par la tête comme parents. Choix de carrière, choix de conjoint. On s'inquiète des fois pour nos enfants parce qu'on veut le meilleur des autres. Alors que, Seigneur, on pourrait juste les remettre à toi, Seigneur, puis avoir confiance que Dieu, tu vas prendre soin d'eux, comme tu prends soin des petits oiseaux. Pardonne-moi, Seigneur. Merci pour ton amour. C'est juste ça que je veux te dire un matin. Puis donne-moi de la force de vivre un jour à la fois. Puis quand je m'inquiète, Seigneur, fais-moi penser, par n'importe quoi, de regarder plus à la verticale qu'à l'horizontale. Puis de t'en parler. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et chanter le chant? À quel point tu m'aimes, Seigneur?
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.